Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
C'est drôle.
Où ça, moi, que tu parles comme ça, hein ?
Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend
ils vont voir si je suis pas un bonhomme ?
On a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve. Et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, on reçoit une sorte de surhomme, le navigateur François Gabart, 35 ans, meilleur marin de sa génération après avoir remporté, entre autres dans le désordre, Route du Rhum, Vendée Globe et Tour du Monde en solitaire. Il m'a retrouvé au Serpent à Plumes à Paris, et je lui ai demandé ce que c'était pour lui, un bonhomme.
Un bonhomme, c'est ce qu'on aspire à être quand on est un homme, c'est... Bah, je sais pas si je réfléchis bon homme, donc un homme avec un petit H ou avec un grand H, pour moi en l'occurrence, ça marche parce que je suis un humain et je suis un humain de sexe masculin. Et puis le bon, bah, c'est ce qu'on... Enfin moi, c'est ce que j'aspire à être, quoi. On essaye. Est-ce qu'on y arrive? Je sais pas. Pas toujours. On essaye le plus souvent possible et je pense par contre c'est une espèce de quête, enfin genre, en tout cas moi c'est une quête, j'essaie en vieillissant d'essayer d'être meilleur, d'être bon, et je reste persuadé que pour faire du bien aux autres faut être bien avec soi, et donc voilà, et c'est comme ça qu'on peut être dans ce cercle assez positif.
La masculinité chez les marins, en tout cas pour moi, elle est représentée par des personnages de fiction assez connus comme Corto Maltese, le capitaine Haddock, Popeye, le capitaine Nemo ou les pirates comme Jack Sparrow, qui représentent chacun des versions différentes du marin ou de la masculinité. Est-ce qu'il y en a un qui te parle le plus à toi, qui te ressemble le plus, ou alors qui ressemble le plus au vrai côté du marin que tu connais et que moi je connais pas?
Dans ces personnages-là, il y en a qui sont assez...
Ils sont très différents.
Le premier, en tout cas, Corto Maltese, c'est... Alors je m'assimile pas du tout à ce personnage parce qu'on est trop différents à plein de points de vue, mais en tout cas il a des traits de personnalité qui m'inspirent et qui me font rêver.
Il est mystérieux.
Il est mystérieux. Il a un côté d'aventure. Il y a une espèce d'esthétique qui est liée à son personnage, mais au-delà de son personnage, qui est liée à la bande dessinée, qui est liée au graphisme de Pratt, et donc il y a ce côté un peu esthétique, un peu poétique que je trouve super beau, et j'adore Corto, j'adore lire les aventures de Corto. Alors les autres personnages, Capitaine Haddock, il est assez
il est bourru, il est un peu macho, il est alcoolique, et comme un peu Popeye qui est quand même assez brut de décoffrage, est-ce que ça existe ce marin là dans les navigateurs de la génération antérieure, ou ceux
oui, évidemment, ça existe. La voile et la mer, la marine, est à la base très masculine. Si je prends, par exemple, la dernière course que j'ai pu faire, la Route du Rhum, on était 124 au départ, je crois, et malheureusement, c'est une écrasante majorité d'hommes.
Il y avait six femmes au départ, je crois.
C'est quand même une représentation qui est dramatique. Et par contre, si on regarde les résultats des femmes dans la course large ces dernières années, elles ont des résultats qui sont extraordinaires. Et en l'occurrence, je pense à Florence Artaud qui l'a gagné, la Route du Rhum. Mais il y a Hélène MacArthur qui a fait deuxième du Vendée Globe, qui a gagné aussi la Route du Rhum en monocoque. Isabelle Autissier. Il y a Catherine Chabot, Sam Davis plus récemment et qui navigue toujours actuellement. Enfin voilà, les résultats des femmes dans la course au large sont extraordinairement bons comparés à leur représentation et au nombre de femmes qui font ce métier-là.
J'imagine que pour se lancer, faut avoir, quand on est une femme dans ce milieu-là, une confiance en soi et être sûr que si on y va, on prend pas le risque.
En effet, il y a peut-être une espèce de sélection qui fait que c'est des femmes extraordinaires qui arrivent jusqu'à ce métier-là. Mais pas que. Je pense vraiment et sincèrement, et là-dessus, que le métier de marin, on a besoin de travail, de patience, de concentration, qui sont peut-être des choses que les femmes font un peu mieux que les hommes.
Ne voyez pas Jacques comme un être humain. Il vient d'une autre planète.
Est-ce que, ça c'est une partie qu'on voit pas, c'est plus les émotions, mais est-ce qu'il y a une fragilité chez un navigateur comme toi ?
Bah bien sûr, on a tous nos fragilités. Heureusement, il faut jamais qu'elles prennent le dessus quelque part. Quand on parle de fragilité, je pense qu'il y a une notion de, il y a des notions d'émotion. Certaines émotions peuvent nous permettre de faire des choses extraordinaires.
Par exemple, la peur.
La peur, c'est assez intéressant comme émotion parce qu'on me demande souvent est-ce que j'ai peur. Et honnêtement, je pense que ça m'est arrivé une fois dans ma vie de marin pendant le tour du monde l'hiver dernier où j'ai croisé un iceberg, un endroit du monde qui était quand même. J'étais aux antipodes, à début du Pacifique. Un endroit où il y a absolument aucune vie humaine autre que un marin qui passe là de temps en temps. Donc il y a pas d'île. L'île la plus proche va être la Nouvelle-Zélande. Enfin non, c'est l'Antarctique. L'île la plus proche. Bon, c'est pas grand monde. Il y a pas de transport maritime. Il y a pas très peu de pêche. Enfin bref, on est tout seul. Si nous arrive si on a un souci dans ces endroits-là. On n'a pas d'assistance possible, donc ça rend les choses un peu extrêmes. Et donc j'ai croisé un iceberg et évidemment avec un bateau comme le trimaran massif qui est capable d'aller très vite, à ce moment-là je devais être à une trentaine de nœuds, donc à quasiment 60 km à l'heure. Si tu rencontres un iceberg, t'as des dégâts sur le bateau qui peuvent être conséquents. Et donc c'est une situation qui est pas très confortable. Et là, j'étais pas à l'aise parce que je me disais mince, là, je suis dans une situation qui est compliquée, qui est dangereuse, quoi. Donc, fallait vite sortir de ça. Et je me suis senti pas à l'aise parce que clairement, il y a ma vie, tout simplement, était en danger.
Mais qu'est-ce qu'on ressent? On perd ses moyens, on est tenté de les perdre.
Non, au contraire, et ça, c'est ce qui est intéressant dans la peur, c'est que, à ce moment-là, en tout cas, pour moi, ça arrivait à un niveau qui faisait que t'as de l'adrénaline, t'as justement une espèce d'instinct de survie, un truc qui ressort, qui vient et qui fait que t'es hyper concentré, t'as une espèce d'énergie. Je devais être fatigué quand j'arrive là, et puis là, dans les 12 heures qu'on suivit, je retrouvais quelque part une forme d'énergie parce que, il fallait sortir de cette situation et pas céder à la peur, mais prendre conscience du danger et s'en servir pour essayer de résoudre la situation. Donc là, dans ce cas, c'est très positif.
C'est quoi les émotions qu'on ressent le plus quand on navigue ?
Les émotions qu'on ressent le plus, je saurais pas les citer parce qu'elles sont très nombreuses. Et ce que je peux par contre dire, c'est qu'elles sont très extrêmes, très intenses. Et c'est quelque part probablement ce qu'on va rechercher quand on est marin. Pourquoi ? Parce qu'on est on est d'abord très fatigué. Du coup, tout ce qu'on perçoit se prend une importance assez assez considérable. Et du coup, les émotions, elles sont décuplées. On va être heureux, mais on va être très très heureux. On va être fatigué, on va être très fatigué. On va être triste, on va être très triste. Et en fait, quelque part, on a des émotions très très fortes.
C'est pas fade. Du coup, la vie à côté de ça, la vraie vie.
Non. Et peut-être que le fait de vivre ces émotions-là, l'extrême de ces émotions-là, nous permet d'être aussi peut-être plus alerte, enfin de mieux comprendre. Parce que je pense que plus on en vit des émotions, plus on les comprend, plus on est capable de les percevoir. Et du coup, de vivre avec ça aussi quand on est à terre et d'être sensible à ça.
On pleure souvent sur un bateau ?
Oui, beaucoup. Je pleure énormément sur le bateau. Même à terre, je suis quelqu'un qui peut avoir des larmes. Et j'ai cette chance, beaucoup de larmes de joie ces dernières années. Je pleins vraiment pas. Je trouve que j'ai pas honte de pleurer à terre, encore moins sur l'eau. Et ça m'arrive très régulièrement. Parce qu'on vit des émotions qui sont super fortes et qu'à un moment donné ça nous dépasse et que c'est une façon d'extérioriser ça, quoi.
On pleure pourquoi, par exemple, c'est la peur ou c'est quand on arrive après les manœuvres?
À partir d'un certain moment sur l'eau, on pleure pour rien. Et c'est ça qui est beau quelque part.
Parce que c'est beau. Parce qu'à
un moment donné, ouais, il y a un coucher. Et justement parce qu'on est dans un état émotionnel très très il faut rien, voilà, un coucher, quelque chose de beau peut nous mettre dans un état émotionnel hallucinant, et ça je trouve ça génial. Et donc, il y a certains couchers de soleil qui sont tellement beaux qu'en quelque part on mérite d'avoir de vivre ces émotions-là. Mais il y a d'autres moments où quelque part on peut se satisfaire. On a un problème technique et on va résoudre le problème. Et puis si on est avec vraiment du recul, si on est objectif, on pourrait se dire c'est rien, c'est pas grave, tu vois. Mais parce qu'on est tout seul à l'autre bout du monde, très fatigué, qu'on travaille depuis des mois voire des années sur cette course, qu'on sait qu'il y a toute une équipe, des personnes. Enfin, il y a plein de choses en amont qui font que ces choses-là prennent tout de suite des importances énormes. Et du coup, on peut quelque part pleurer pour pas grand-chose. On pleurait en public, c'est quelque chose d'assez rare. Quelque part, je dis que j'ai eu la chance de le faire à mon premier Vendée Globe. Je suis arrivé du Vendée Globe sur la remontée du Chenal. C'était trop fort pour moi. Et c'est pas facile parce qu'il y a quand même une pudeur et c'est pas simple. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que on partage, je sais, en discutant avec d'autres personnes, qu'il y a énormément de personnes qui, ce jour-là, ont pleuré. Ça me fait presque pleurer encore aujourd'hui. Alors que c'était il y a 6 ans. Mais tu vois, se dire que finalement, tu fais quelque chose, tu vis une émotion très, très forte, et tu partages cette émotion, parce qu'il y a des gens qui étaient dans leur canapé, tu as envie de dire, mais qui ont vécu eux aussi une émotion super forte, et tu partages cette émotion-là. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire.
C'est quoi? C'est quand l'équipe remonte sur le bateau ou quand on voit les visages des gens qui attendent aux portes?
Je sais pas, c'est une espèce de soulagement, quoi. Après la ligne d'arrivée, t'arrives et puis tu... Je sais même pas comment définir, mais en effet, c'est une espèce de soulagement qui libération quelque part, qui est lié à une accumulation d'émotions depuis des semaines, voire des années, des semaines sur l'eau, qui font que tout ça explose, une espèce de feu d'artifice qui est émotionnel, que je trouve en tout cas fabuleux. C'est des moments de vie qui sont assez uniques et qu'on a du mal à recréer dans une vie normale, quoi.
Et justement, au niveau familial et dans le couple et les enfants, comment ça s'articule la vie de famille entre les absences? Enfin, on a l'image du marin qui part et la femme et les enfants qui restent et qui attendent. Je sais que c'est pas ça dans les faits, sinon personne ne pourrait le vivre.
Quand une femme de...
Ou comme une navigatrice, exactement. J'imagine qu'il y a une façon particulière d'articuler la chose quand t'es absent, et puis le retour aussi, c'est...
Ouais, c'est sûr qu'il y a des moments, j'essaie de faire le plus rapidement possible, mais...
c'est comme ça qu'on bat l'air quand même.
Aujourd'hui, je dis sous forme de boutade, mais c'est un peu vrai, parce que je cherche pas du tout à fuir... Je cherche pas à fuir la vie terrestre. J'adore la vie terrestre. Il y a des gens que j'aime sur Terre que je cherche pas à les fuir. Je cherche juste à vivre d'autres choses quelque part, en espérant un peu avec eux, en partageant des choses avec eux, en essayant de revenir un peu meilleur. Et j'essaie de partir le moins longtemps possible. Et c'est pour ça que je fais de la course et que j'essaie d'aller le plus vite possible. Il y a forcément des absences qui sont longues. Faire un tour du monde, j'ai fait 2 tours du monde. Le premier en 78 jours, le deuxième en 42 jours. C'est long. Enfin, à partir de 78 jours, c'est super long. Après, si je prends un tout petit peu de recul par rapport à mon activité, si je prends par exemple l'année précédente, en 2018, j'ai fait une route du Rhum. Route du Rhum, ça a duré un peu moins de 8 jours, 7 jours. Donc j'étais absent pendant 7 jours, c'est un fait, j'étais sur le bateau. Mais si je prends par exemple l'ensemble des absences que j'ai pu avoir dans l'année 2018 dans le cadre de mon métier de marin, pour aller venir à Paris parler avec vous, avec les médias, pour échanger avec mon sponsor, il y a beaucoup plus de 7 jours dans l'année. Donc dans le métier de marin qu'on voit, on part sur l'eau, le métier de marin à terre m'absente plus de la maison que mon métier de marin sur l'eau. Et il y a plein de professions, il y a plein de métiers, des commerciaux, des gens qui sont par leur métier très terrestre, qui font qu'ils sont pas à la maison tous les soirs.
Après, quand on est marin et qu'on fait un tour du monde en solitaire, la distance, elle est aussi dans la tête, puisqu'on vit des choses que les personnes pourront jamais comprendre. On n'a peut-être pas le temps de les appeler.
Oui ou non, parce que assez paradoxalement, on va partager certaines émotions d'une manière bien plus forte que ce qu'on pourrait faire dans la vie de tous les jours. Et du coup, par rapport à cette notion un peu de solitude, quand je suis en mer, dans le cadre des courses, j'interagis avec des milliers, voire des millions de personnes, donc où il y a une connexion qui s'opère, qui ne s'opère pas finalement quand je suis à terre, avec la famille d'une manière différente, avec une certaine distance qui est, j'ai envie de dire, pas souhaitable, c'est-à-dire qu'on ne va pas construire une vie de famille en vivant des émotions tout le temps. Mais par contre, le vivre quelques jours dans l'année et vivre aussi et partager ses émotions avec sa famille et ses proches, c'est aussi quelque chose qui est beau.
Enzo ?
Je te laisse en train de barboter, 20 ans après, je te retrouve encore dans l'eau.
Je voulais parler de transmission. J'ai vu que c'était, il y avait beaucoup de transmission entre les hommes de ta famille. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ?
J'ai eu la chance d'apprendre, de grandir avec plein de personnes autour de moi qui m'ont accompagné, des marins qui m'ont inspiré, des entraîneurs, des équipiers avec qui j'ai navigué, qui m'ont permis de progresser, d'apprendre. Des marins plus âgés que moi, quand je suis arrivé dans la course large, qui m'ont accompagné. Je pense à Quito de Pavant, je pense à Michel Desjoyaux, avec qui j'ai appris, j'ai navigué, j'ai changé. Et j'ai eu la chance de progresser, d'apprendre avec eux. Ils m'ont transmis énormément de choses. J'espère, moi, leur avoir transmis aussi certaines choses d'une manière différente. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence que je veux aussi transmettre ce que j'ai appris. Et je pense qu'il y a des phases dans la vie, et on parlait de famille, et aujourd'hui j'ai appris grâce à mes parents, aux côtés de mes sœurs, et aujourd'hui j'ai des enfants, et j'espère leur transmettre, comme mes parents m'ont transmis des valeurs, plein de choses, et j'espère pouvoir transmettre ça à mes enfants, qui eux-mêmes transmettront un jour à d'autres, et c'est la vie, quoi, c'est l'espèce de cercle de la vie qui est beau.
Et comment on élève un bon garçon, parce que t'as des fils? Et on en fait un bonhomme. Comment?
C'est ma grande question du moment parce que, voilà, c'est quelque chose de très universel. Et qu'est-ce qu'on veut apporter à ses enfants, quel que soit son sexe? Et c'est une question que je me pose, aujourd'hui, que je me poserai demain et je pense que je me poserai toute ma vie. On essaye de faire le mieux possible, mais on sait qu'on faut accepter que c'est jamais parfait. C'est comme une course de bateau. On essaye de faire le mieux possible, on essaye de faire le moins d'erreurs possible, on en fait. Et même si on gagne des courses, on fait des erreurs. Si j'essaie de simplifier un maximum ce que j'aimerais leur transmettre, c'est évidemment probablement des choses assez proches de ce que mes parents m'ont transmis.
C'est des passions?
Une chose que je pense qu'on a transmis, c'est de se dire que quand on a quelque chose au fond de soi, quand on a une envie, quand on a un rêve, se dire qu'il faut vraiment tout faire pour essayer de le réaliser. Et ça, j'ai eu la chance de vivre quand j'étais gamin, quand j'avais 6-7 ans, j'ai vécu un an sur un bateau avec mes parents et mes sœurs. C'était un rêve de mes parents qui était quelque part audacieux, qui était loin d'être évident. Ils avaient un métier, ils sont pas du tout marins, ils ont des métiers très terrestres. Ils ont pris un congé, une année sabbatique. Ils sont partis avec leurs enfants qui étaient jeunes, on avait 3, 6, 9. Moi j'étais au milieu et ils sont partis avec 3 enfants traverser l'Atlantique et vivre sur un bateau et ça ils avaient ça au fond d'eux-mêmes et c'était loin d'être évident et pourtant ils l'ont fait et je pense qu'ils en sont ils en sont ravis. Nous enfants on a vécu un super moment et au-delà du bon moment passé ensemble, je pense que ça, il y a une valeur qui ressort de ça, enfin. Ou un message quelque part, c'est de se dire, ben voilà, quand on a envie de faire quelque chose, même si autour de soi, on dit, ah oui, mais peut-être, c'est pas si évident que ça, il y a une petite prise de risque, il faut un peu lâcher son boulot pendant quelques temps, mais ça vaut le coup. Et grosso modo, je pense que quand on va chercher ce qu'on a au fond de soi, on a tous quelque chose au fond de soi, des fois c'est plus ou moins, c'est facile, il y a des gens qui trouvent tout de suite ce qui les passionne, ce qui leur donne envie, il y a d'autres, c'est moins évident. Et puis, ça, c'est pareil dans la vie. Enfin, aujourd'hui, j'ai eu la chance, moi, d'avoir cette passion de la voile qui était très forte. Mais le choix de devenir marin était loin d'être évident et c'est compliqué. Je regrette évidemment pas parce que c'est passionnant et je suis heureux d'avoir fait ça. Mais et peut-être que dans 20 ans, je me poserai des questions et que ça sera pas si évident que ça de trouver le truc qui me passionne, qui me fait rêver. Je voudrais pas que les gens qui écoutent, si surtout des jeunes, des adolescents qui disent, bah oui, moi, je sais pas, mais c'est pas grave. Tu trouveras, enfin, tu vois, je veux dire, on n'est pas obligé de savoir à 10 ans, à 15 ans ou à 20 ans. Des fois, ça arrive plus tard, etc. Peu importe, mais il y a plein de petites choses qu'on a au fond de soi. Et ça, faut essayer d'être à l'écoute de ça. Et se dire, on y va, quoi. Et on avance. Et puis, on essaie d'avancer. Et donc, j'espère que mes enfants arriveront à à sentir même ce qu'ils ont au fond d'eux, pas ce que leurs parents voudraient qu'ils aient dans eux, ou pas ce que leurs copains, ou pas parce que non, ce qu'ils ont vraiment eux au fond d'eux. Et quelque part, nous, le boulot de parents, je pense que ce n'est que les accompagner à essayer d'écouter ce qu'ils ont au fond d'eux, et puis essayer de faire en sorte que bah, les accompagner un peu, parce que quand t'es tout petit, bah, faut un peu les accompagner, puis à un moment donné, ils font ça tout seuls. Et
est-ce que ça passe par les emmener, comme ont fait tes parents, faire un
ouais, forcément,
voyage en bateau?
Bah, non, enfin, pas forcément par un voyage en bateau, c'est évidemment pas... c'est un peu ce que j'aimerais bien faire ça avec eux, mais quelque part ce serait pas ce que leur imposer ça, mais oui, j'aimerais bien voyager un jour avec mes enfants en famille en bateau, mais non, mais c'est essayer de l'écouter, et puis si jamais bah justement leur passion naissante elle se trouve à terre, ben il faut essayer de les écouter et essayer de les accompagner, essayer de les peut-être de les bah de leur donner nous l'expérience de parents, parce qu'on est un peu plus âgé, qu'on a un peu plus de bouteilles, et que leur dire bah oui, ça c'est bah ça, pour arriver à ça il faudra peut-être que tu fasses ça ou que tu fasses ça, et puis leur donner des idées, les pousser ou les retenir, je sais pas, je pense pas qu'il faille retenir, mais il y a peut-être des moments où faut essayer, enfin en tout cas nous le rôle de parents, essayer de leur donner des conseils, mais sans jamais interférer, ou en tout cas le moins possible, essayer de jamais interférer sur ce qu'on a au fond de soi, parce que c'est parce qu'on a tous quelque chose au fond de soi et il faut essayer de le trouver. C'est ça, la vie, d'essayer d'aller chercher ça et d'essayer de le faire ressortir.
Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.